Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous. Juste un mot avant l'émission d'aujourd'hui qui est consacrée à la présence russe en Afrique subsaharienne. Simplement pour vous dire que c'est un enregistrement qu'on a fait la semaine dernière. Et évidemment, les dieux de l'actualité sont parfois taquins quand on s'organise comme ça. Et il se trouve qu'on a appris hier, lundi 13 septembre, qu'il semblerait que le groupe Wagner soit sur le point de signer un accord avec le pouvoir malien pour opérer au Mali. Ce qui, évidemment, serait une grosse nouvelle qui peut inquiéter, vu depuis Paris, pour tout un tas de raisons. Si jamais vous ne comprenez pas bien de quoi il est question, ne vous inquiétez pas, ça deviendra très clair en écoutant l'épisode. En tout cas, c'est un article de Reuters qui révèle ça, article que vous trouverez dans la description de l'épisode. Alors, il n'y a apparemment rien de définitif à l'heure où cette émission est diffusée, et on sait que la situation au Mali est un peu incertaine depuis la prise du pouvoir par des militaires en août 2020, mais le fait est qu'on dit dans l'épisode que les efforts russes se concentrent sur la République centrafricaine, qui est un laboratoire en quelque sorte de leur présence dans la région, ce qui est tout de même parfaitement vrai, mais il faut donc juste ajouter qu'il semblerait que le laboratoire puisse en quelque sorte s'étendre, voire se déplacer vers le Mali, si tout cela est confirmé. Une fois qu'on a ajouté cette parenthèse d'actualité, je laisse donc la place à la discussion avec Emmanuel Dreyfus et Maxime Audina, qui sont tous les deux chercheurs à l'IRSEM. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui, pour parler de la Russie, mais pour changer un peu, de la Russie hors de ses frontières, et notamment de ses projections de puissance sur le continent africain, j'ai le plaisir de recevoir deux chercheurs de l'IRSEM, spécialistes de la Russie. Tout d'abord, Emmanuel Dreyfus. Alors, je peux dire désormais docteur Emmanuel Dreyfus, parce que je vais préciser que vous avez récemment soutenu votre thèse, et je vais en profiter pour vous féliciter.
Merci Alexandre, merci.
Qui est donc le chercheur Russie de l'IRSEM. Vous êtes donc tout indiqué pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, bienvenue à nouveau dans le Collimateur, puisque je vais vous rappeler que vous étiez déjà venu, mais dans le format tête chercheuse pour nous parler, pour expliquer un peu une certaine pensée stratégique russe et démystifier un peu la notion qu'on retrouve souvent de doctrine Gerasimov. Je renvoie évidemment les auditeurs à cette émission. Et ensuite, Maxime Audinet, donc docteur Maxime Audinet aussi d'ailleurs, chercheur stratégie d'influence et lutte informationnelle à l'IRSEM. Et les auditeurs se souviendront peut-être que vous étiez déjà venu dans un épisode avec Maud Kessar autour du livre sur les guerres de l'information pour nous parler de Russia Today et de Sputnik et plus généralement des opérations informationnelles russes. Donc bonjour Maxime.
Bonjour Alexandre.
Alors, on voit bien tout de suite qu'il va s'agir d'étudier les différentes formes de la présence russe en Afrique avec des regards complémentaires, puisque Maxime, vous êtes spécialiste de la lutte informationnelle, et Emmanuel, c'est plutôt d'autres formes de projection de puissance qui retiennent votre attention, puisque vous avez notamment travaillé sur les groupes paramilitaires, disons, russes, et notamment sur la société Wagner et ses actions partout dans le monde. Alors, cette présence russe en Afrique, je précise tout de suite, on va surtout parler de l'Afrique subsaharienne et notamment francophone. L'Afrique du Nord, c'est un peu autre chose, même si les deux sont liés, évidemment. C'est donc une présence qui est très réelle et très tangible, qui est croissante, même si on verra qu'elle a des limites claires, et qui retient beaucoup l'attention, et notamment beaucoup l'attention en France depuis quelques temps. Alors parfois autour de mercenaires russes, leur présence par exemple en République centrafricaine, parfois autour d'opérations d'information ou désinformation qu'on attribue à des hackers ou à des fermatrolls russes sur Internet. Mais on peut voir que c'est sensible notamment parce que ce sont des opérations qui sont de plus en plus dans des zones d'influence traditionnelle française et au détriment de cette influence française. On en reparlera, mais on verra que c'est beaucoup comme ça que la Russie procède, par le dénigrement d'autres puissances pour s'insérer. Et que donc, évidemment, vu de France, c'est assez déplaisant, voire un peu inquiétant, cette influence russe croissante en Afrique. Et je voudrais simplement commencer en essayant de prévenir un procès en diabolisation ou en russophobie qu'on pourrait nous faire, en disant que la France fait la même chose, qu'il faudrait déjà balayer devant sa porte avant de dénoncer l'influence russe en Afrique, etc. On voit l'argument qui est pas nouveau. C'est d'ailleurs, on peut dire, un reproche qui n'est pas anormal ni inintéressant. On dépend tous les trois plus ou moins directement de l'IRSEM et donc du ministère des Armées. Donc même si c'est pas ce qu'on va essayer de faire, il est vrai que ce qu'on va dire est certainement situé et influencé par cette position d'une manière ou d'une autre. Mais simplement, on peut préciser qu'évidemment, la France aussi a une présence et fait de l'influence en Afrique dans l'absolu. Mais il ne s'agit pas de dire si c'est bien ou si c'est mal. Il s'agit de comprendre le pourquoi et le comment de ces opérations d'influence. Parce que la Russie le fait avec des méthodes très différentes et avec un passif très différent aussi. Et que ça dit plus généralement quelque chose d'où en est la Russie dans sa remontée en puissance globale actuelle. Alors, une fois que ça c'est dit, j'aimerais qu'on commence par étudier un peu ce passif déjà en ce qui concerne la Russie. C'est-à-dire qu'on parle souvent de retour de la Russie en Afrique, ce qui implique donc qu'ils ont déjà été présents. Alors, bon, évidemment, ils n'avaient pas de colonie à proprement parler en Afrique. On sait que l'Afrique a pour autant été un des grands théâtres de la guerre froide et que donc l'URSS avait des liens avec l'Afrique subsaharienne. Mais donc, est-ce que vous pourriez d'abord nous dire ce que ça a été, cette présence soviétique, donc russe en Afrique, et dans quelle mesure ça a posé, disons, des jalons pour le mouvement contemporain. Je sais pas qui veut. Maxime Audinet?
Alors, merci Alexandre. Je vais peut-être commencer sur la partie justement, disons soft ou en tout cas non militaire de cette présence soviétique en Afrique qui a été effectivement extrêmement importante à partir des années 50, parallèlement à l'évolution en fait d'un discours anti-impérialiste et anti-colonial qui a été croissant, et donc l'URSS a cherché à entretenir en fait ce discours tout en diffusant évidemment l'idéologie communiste sur le continent. Et on a plusieurs types d'instruments qui ont été mis en place. Je pense d'abord à ce qu'on appelait les sociétés d'amitié. Qui étaient en fait, on pourrait dire, des espèces d'instituts culturels en fait, qui étaient installés dans plusieurs pays africains, à la fois pour propager la culture russe, le russe, mais aussi évidemment l'idéologie communiste. Et puis, vous avez évidemment Radio Moscou, qui était donc la grande radio internationale soviétique et qui se déploie sur le continent africain d'abord en français, en anglais dans les années 50, et puis qui, à partir des années 60 et 70, parallèlement donc au mouvement de libération et d'indépendance, va se développer en 11 langues africaines, notamment le service Swahili ou en Bambara, qui étaient des gros services de Radio Moscou, et qui évidemment ont laissé une empreinte forte sur lesquelles ont pu se déployer à l'époque post-soviétique différents types de réseaux.
Alors c'est très poétique cette amitié donc russo-africaine, mais alors on imagine que cette amitié, au-delà de l'influence culturelle et des produits culturels, on imagine qu'il y a aussi eu peut-être des liens un peu plus personnels et un peu plus organiques, notamment dans le domaine militaire. Emmanuel Dreyfus, on sait qu'il y a un certain nombre de dirigeants africains qui ont, notamment quand ils ont eu un passé militaire, qui ont peut-être fait des crochets par Moscou à un certain moment. Disons, quelle importance ça a eu et dans quelle mesure est-ce que c'est un relais, disons, d'influence contemporaine.
Oui, exactement. Donc il y a un certain nombre de dirigeants africains et nord-africains, parce que c'est en fait faux. Je pense que c'est important de lier les deux, qui ont été formés en Union soviétique, donc soit à l'université de l'amitié entre les peuples, pour ce qui concerne, on va dire, les dirigeants politiques, soit à
Je
l'académie
souris parce que c'est tellement poétique, l'université de l'amitié entre les peuples. On a vraiment envie d'y être
oui,
spontanément.
Qui elle s'appelle toujours comme ça, d'ailleurs.
Qui était, voilà, il y avait l'université Patrice Lumumba, d'ailleurs, hein, aussi, qui enfin, ça illustre quand même.
Il y avait une université Patrice
Lumumba. Patrice
Lumumba,
ouais, c'est qui ça illustre cette amitié qui existe existé entre l'Union soviétique et certains pays d'Afrique subsaharienne. Je dirais même à titre personnel hein, que moi, j'étais en Moldavie il y a quelques années, où j'ai vu une statue de Lumumba dans un village moldave, et que par ailleurs, j'étais en Transnistrie, donc cette république séparatiste, où j'étais invité à un banquet de kolkhoz, et je suis tombé sur un vieux paysan transnistrien qui parlait un français parfait, donc je lui ai demandé où est-ce qu'il avait appris le français, et c'est parce qu'en fait, il était coopérant agricole soviétique au Mali, donc il y a eu vraiment... Enfin, ça illustrait un peu, avec une note personnelle, cette amitié. Dans le domaine
militaire... Alors, que vous passez donc vos vacances dans des kolkhoz, c'est très intéressant.
C'était il y a une dizaine d'années, hein, maintenant.
D'accord.
Voilà. Il y a un certain nombre de dirigeants militaires, donc des généraux, des officiers supérieurs, qui ont été formés à l'Académie de l'État-major général des forces armées soviétiques, parce que effectivement la dimension militaire de cette amitié soviéto-africaine elle est extrêmement importante, avec une implication soviétique dans certains conflits liés à la guerre froide en Afrique subsaharienne. Je pense à la guerre civile en Angola, je pense aux luttes d'indépendance au Mozambique, par exemple, et le déploiement également de bases militaires plus ou moins importantes, hein, c'était plutôt des points d'escale ou des points d'appui, comme on dit dans le jargon militaire russe, dans plusieurs pays d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Je pense à l'Égypte, mais jusqu'en 1972-1973, jusqu'au départ des conseillers soviétiques d'Égypte. Je pense également à l'Éthiopie, où les soviétiques sont restés jusqu'au début des années 90, au Soudan ou au sud de Yémen. Donc une présence surtout sur la Méditerranée orientale et en mer Rouge.
Maxime Odine.
Non, juste à ajouter, parce que c'est quand même important et ça a une incidence très forte aussi sur ce qui se passe aujourd'hui, c'était aussi la présence évidemment du KGB en Afrique subsaharienne, et avec toute une série d'opérations de ce qu'on se qualifiait à l'époque les mesures actives, qui ont été mises en évidence notamment par Vassili Mitrokhin, et qui ont eu...
Donc Mitrokhin, on va rappeler, c'est un défecteur soviétique qui a, une fois qu'il est passé à l'Ouest, a publié énormément de bouquins et d'un livre du KGB. Enfin bon, c'est une source invraisemblable sur le KGB. Et donc c'est par lui qu'on a pu savoir tout ce qu'il faisait.
Et on peut identifier plusieurs opérations justement qui ont été menées dans des pays d'Afrique subsaharienne francophone. Et je pense juste, je citerai les opérations Defector 3 et 4 qui ont été menées en Guinée et au Mali pour en fait influencer les présidents Sékou Touré et Keïta et finalement suggérer que la CIA était derrière des tentatives de coup d'État, tout ça étant fait à partir de forgeries, ce qu'on appelle les forgeries, ou de faux documents qui étaient transmis en fait aux élites de ces pays, toujours dans le même objectif en fait.
Pour leur faire croire que la CIA essayait de faire des coups d'État dans leur pays, ce qui évidemment est pure fiction, parce que jamais la CIA ne ferait quelque chose comme ça.
C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a toujours une part de vérité dans ces mesures actives.
Très bien. Alors une fois que tout ça s'est dit et qu'on voit un peu disons, la géométrie de cette présence soviétique en Afrique, on se doute bien qu'à partir du début des années 90, ça a dû être un peu plus compliqué, parce qu'il y avait autre chose à faire, en quelque sorte. Mais, bon, comment dire, qu'est-ce qui se passe avec cet effondrement de l'URSS, ce passage à la Russie post-soviétique? Est-ce que tout le monde part? Est-ce qu'il y a l'idée quand même qu'il faut garder, si ce n'est des investissements, mais au moins des intérêts, des liens, d'une manière ou d'une autre, vis-à-vis de l'Afrique? Ou est-ce que c'est, voilà, en petit bagage, tout le monde rentre en Russie et on verra plus tard?
Bah les bases militaires désormais russes, elles ferment, hein, avec la dernière base, il me semble que c'est la base d'Aden, hein, sur la mer Rouge, qui ferme en 1994. Et les liens structurants qui existaient encore au début des années 90 entre désormais la Russie post-soviétique et les pays d'Afrique subsaharienne, c'était essentiellement quand même dans le domaine de l'armement. Avec une dimension, c'était pas des relations commerciales, c'était plutôt des dons ou des ventes à des prêts extrêmement avantageux d'armement à des pays africains. Et en fait, au début des années 90, tout simplement, la Russie a plus les moyens d'assurer cette politique. Donc effectivement, la première décennie post-soviétique de la Russie, c'est un retrait quasi complet. Les ambassades et les consulats sont maintenus, mais sinon, c'est un retrait quasi complet de la présence russe sur le continent. Et le retour, et je peux laisser Maxime en parler, le retour de la Russie, en fait, il date pas de la Centrafrique en 2017-2018, il commence en réalité dès le milieu des années 2000, c'est juste qu'on a commencé à y faire plus attention assez récemment, quoi.
Ouais, donc
Maxime Onnier.
Peut-être pour ajouter, effectivement, après un retrait au moment de la perestroïka assez progressif et la chute brutale et le retrait extrêmement rapide qu'évoquait Emmanuel, vous avez notamment ce qui inaugure un petit peu ce premier retour, si on peut dire, c'est l'Algérie au moment un voyage de Poutine en Algérie où la Russie consent à effacer la dette de l'Algérie en échange du développement de contrats d'armement plus poussés. Et ce qu'on observe en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est à partir de ce moment-là où, disons, l'Afrique qui, dans les années 90, n'avait plus aucun intérêt stratégique pour la Russie, alors que pourtant le continent africain lui-même était en train de monter et d'être un terrain extrêmement intéressant pour d'autres puissances. Donc cette logique-là revient en Russie et se déploie notamment au moment de la présidence de Dmitri Medvedev entre 2008 et 2012, au moment où vont survenir les fameux printemps arabes. Donc là, effectivement, il faut intégrer aussi l'Afrique du Nord. Et c'est à ce moment-là que vous avez tout un discours qui va se développer autour de la nécessité pour la Russie de défendre en fait une vision qui va être pensée comme alternative en fait à l'influence occidentale dans la région, donc avec sur les printemps arabes, et puis après ça se déploiera et ça sera articulé avec ce qu'on a appelé les révolutions de couleur aussi au milieu des années 2000, puis avec la crise ukrainienne.
Ouais, mais parce qu'on peut dire que donc bon, c'était à peu près verrouillé depuis le départ si ce n'est verrouillé, en tout cas il n'y avait pas une énorme présence russe, et puis ça ouvre des portes, ces changements de régime, cette instabilité. On peut dire que la Russie a beaucoup investi en Égypte, notamment, à peu près à cette période-là. Il y a une présence de plus en plus forte en Libye. On peut ajouter qu'ils ont pris des investissements aussi de plus en plus au Soudan. Alors, au Soudan, ça se voit beaucoup, parce que c'est un peu d'investissement fait beaucoup de différence sur le terrain. Mais donc, on voit, même si on n'est pas encore dans cette Afrique subsaharienne, notamment francophone, qui nous intéresse, que ça va fonctionner un peu, en quelque sorte, comme des points d'entrée, des portes qui vont permettre à la Russie ensuite de relayer, de diffuser son influence à l'échelle du continent. Emmanuel Dreyfus.
Oui, exactement, Alexandre, et c'est pour ça que si on s'intéresse à la présence russe en Afrique subsaharienne, il faut vraiment voir le continuum qui existe entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Très rapidement, hein, si on analyse un peu le retour, entre guillemets, de la Russie en Afrique comme un peu une extension du domaine de la lutte dans la relation, on va dire, conflictuelle qui existe aujourd'hui entre la Russie et l'Occident. Cette relation conflictuelle, elle a d'abord commencé avec l'espace post-soviétique, hein, avec la volonté de Moscou de dénier toute présence occidentale dans son précaré post-soviétique. Donc je pense notamment empêcher l'Ukraine et la Géorgie d'intégrer l'OTAN. Ensuite, elle s'est poursuivie à partir de 2015 et l'intervention de Moscou en Syrie au Moyen-Orient, avec un renforcement de l'influence et de la présence russe au Moyen-Orient qui est quand même extrêmement important et autrement plus dimensionnant que la présence russe en Afrique subsaharienne. Et enfin, le troisième niveau, c'est l'Afrique subsaharienne. Et le continuum, il est effectivement constitué de pays comme l'Égypte, qui d'après moi est en fait le seul pays d'Afrique avec lequel la Russie dispose réellement d'une relation qui peut être qualifiée de partenariat stratégique, donc à la faveur de deux événements distincts qui sont d'une part le changement de régime en Égypte en 2013 et l'arrivée au pouvoir du maréchal Sissi, donc avec lequel Vladimir Poutine partage, on va dire, une hostilité assez partagée envers certaines questions de démocratie, de droits de l'homme, voilà.
Et donc c'est l'humanisme qui les rejoint.
Voilà, et un goût prononcé pour une politique étrangère assertive. Donc ça commence avec l'Égypte, il y a des contrats d'armement extrêmement importants qui sont conclus en 2014, hein, de l'ordre de 3 milliards de dollars quand même. En 2017, il y a la signature d'un contrat portant sur la construction d'une centrale nucléaire en Égypte, donc c'est en négociation depuis une quarantaine d'années quand même qui est signé. Et ça, c'est vraiment des liens structurants qui font que la relation va durer pendant des années et des années. Quand on s'engage à construire une centrale ou à livrer des hélicoptères ou des systèmes S-300, c'est du lourd, si je puis dire. Ensuite, il y a eu la Libye, et ça a été aidé par la relation entre la Russie et l'Égypte, parce que Moscou et le Caire ont une certaine communauté de vue, on va dire, sur la gestion de la crise en Libye, et ont un soutien partagé pour le maréchal Haftar. Et ensuite, c'est effectivement descendu vers le Soudan. Et si on regarde sur un plan chronologique, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé.
Maxime Audier.
Ouais, et donc pour en venir à la période récente, ce qui est intéressant, c'est la manière dont le sommet, enfin le forum Russie-Afrique de Sotchi, donc en octobre 2019, a précisément été en fait l'occasion pour Moscou. Donc ça s'est passé donc à Sotchi, il y a une quarantaine de chefs d'État africains qui sont rendus dans la ville, et ça a été l'occasion justement pour le Kremlin de s'afficher avec ces deux aspects-là, c'est-à-dire à la fois comme un partenaire fiable et un prestataire de sécurité précisément auprès de ces différentes élites, et puis d'un autre côté aussi, avec une vision peut-être plus politique et voire idéologique, comme un rempart en fait contre un certain nombre d'influences, notamment occidentales, dans la région, et comme surtout le défenseur des souverainetés, ce qui était aussi un discours qu'elle avait déployé ailleurs.
Et juste pour compléter les propos de Maxime, je rappelle qu'il a été co-organisé avec l'Égypte, ce qui confirme vraiment le fait que le Caire doit être vu comme la porte d'entrée de la Russie sur le continent africain.
Et d'ailleurs, c'est le seul pays où RT a un bureau de correspondance dans toute l'Afrique.
Alors, on va y venir. Simplement, puisqu'on parlait de la Syrie, je précise aussi que, évidemment, l'intervention russe en Syrie a eu une fonction de démonstration de puissance et aussi de démonstration de matériel, et que il est passé inaperçu à personne que les Russes avaient des bons matériels et qu'ils étaient capables de les exporter. Et on peut dire que, dans une certaine mesure, ça a donné le coup d'envoi d'un certain mouvement et d'un certain nombre d'exportations d'armes en direction de l'Afrique, mais on y reviendra probablement. Mais alors justement, puisqu'on parle de tout ça, j'aimerais poser la question, pourquoi ? Pourquoi est-ce que la Russie fait tout ça ? Vous en avez parlé, c'est un continuum, mais bon, on sait quand même que la Russie opère avec des moyens relativement limités, quoi qu'on en dise, et même si on s'inquiète beaucoup de la montée de cette influence. Mais bon, c'est une économie qui n'est pas gigantesque par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, ou même par rapport à l'Union européenne. C'est une armée qui l'est encore moins, même si la courbe s'inverse. On a fait une émission avec Isabelle Fagon, mais il reste qu'ils opèrent quand même sur des moyens relativement limités, notamment militairement. Et par ailleurs, évidemment que la Russie regarde beaucoup plus vers ses frontières directes et est beaucoup plus chatouilleuse, disons, sur l'ère géographique post-soviétique. Je signale d'ailleurs qu'ils vont d'ailleurs prochainement faire leurs grands exercices militaires pour se préparer à une éventuelle attaque venue de l'Occident, ce qui devrait être très, très intéressant à regarder dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, ma question, c'est pourquoi voir si loin pour la Russie ? C'est-à-dire, est-ce que c'est le désir de se trouver ou de se retrouver un statut de grande puissance mondiale, qui donc peut se projeter ou au moins gêner les autres un peu partout dans le monde, ou est-ce que, disons, il y a un désir d'en tirer des bénéfices en termes de puissance plus directs ? Emmanuel Trépus.
Je pense qu'on peut avoir en tête, dans les motifs qui tiendraient de la grande stratégie, entre guillemets, cette extension, encore une fois, du domaine de la lutte dans la relation confrontationnelle avec l'Occident. C'est important à avoir en tête, que j'évoquais tout à l'heure. Il y a le fait, c'est peut-être un peu moins évident, mais c'est extrêmement important, c'est que avec certains pays d'Afrique situés à la limite entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, la Russie cherche à obtenir des alliés régionaux dans sa gestion de la crise en Syrie, parce que si on regarde que ce soit l'Égypte, que ce soit le maréchal Haftar, que ce soit Omar el-Béchir avant le changement de régime au Soudan, c'est trois acteurs qui soutiennent totalement la position de Moscou sur le dossier syrien. Et d'ailleurs, je rappellerai qu'Omar el-Béchir, c'est le premier dirigeant de la Ligue arabe à s'être rendu à Damas après l'exclusion de la Syrie. Donc il y allait en 2018 via d'ailleurs un avion militaire russe. C'est assez intéressant en fait, ces liens sous-régionaux qui existent. Au-delà de cette dimension un peu grande stratégie géopolitique, moi je pense que c'est quand même avant tout des considérations extrêmement pragmatiques, économiques et commerciales. Si on regarde les différents documents de défense et de sécurité russes, il faut vraiment avoir en tête que l'Afrique, c'est tout en bas de la liste des priorités. Le dernier concept de politique étrangère, donc, qui date de 2016, l'Afrique, et j'ai revérifié, est vraiment, donc l'Afrique subsaharienne, parce qu'il y a un distinguo avec l'Afrique du Nord, elle est vraiment placée en bas des 50 priorités régionales qui existent. Donc c'est la dernière. Et par ailleurs, il n'y a pas de vice-ministre des Affaires étrangères russe chargé du continent africain. C'est un portefeuille qui a été ajouté à celui de Leonid Bogdanov, mais qui était déjà en charge du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Donc en fait, pour le moment, en tout cas, ça va peut-être changer, mais pour le moment, ça semble pas être une priorité stratégique majeure.
Maxime Audier.
Oui, je pense que en fait, ce qu'il faut, la manière dont il faut voir aussi cette ce retour ou cet accroissement de la présence russe en Afrique, c'est aussi de réfléchir en termes de cercle concentrique avec un espace prioritaire et stratégique qui est l'espace post-soviétique, le voisinage direct de la Russie. Ensuite, un deuxième cercle qui engloberait, on pourrait dire, les pays occidentaux et surtout l'Europe et le Moyen-Orient. Et puis un troisième cercle qui est effectivement l'espace de projection le plus lointain. Et donc pouvoir se projeter, c'est évidemment manifester sa puissance renouvelée et qui comprendrait... en fait, essentiellement, bon, évidemment, l'Asie, mais aussi l'Amérique latine et l'Afrique. Et de ce point de vue, effectivement, il faut aussi se rappeler qu'il y a de la part de la Russie tout un discours sur la nécessité de bâtir un monde multipolaire ou polycentrique, comme disent les Russes. Et on pense aux BRICS et la relation avec l'Afrique du Sud qu'on n'a pas mentionné, évidemment.
Donc les BRICS, rappelons que c'est ce groupe, normalement c'est un truc qui se voit au lycée, mais, au collège et au lycée, mais les BRICS, ce sont ces pays émergents particulièrement dynamiques. Donc Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud.
Donc c'est quand même une chimère à bien des égards, parce que c'est pas quelque chose de très intégré, mais en tout cas c'est un discours qui est important en Russie et qui reste important. Même si je rejoins totalement Emmanuel pour dire que, et c'est ça qui est d'ailleurs très intéressant avec cette présence russe en Afrique, c'est que c'est aussi peut-être d'abord et avant tout une présence effectivement pragmatique, opportuniste, avec des coûts. Qui peuvent être menés ici et là. Et donc, il n'y a pas, si vous voulez, une politique africaine de la Russie, comme on pourrait dire, qui est encore très structurée, même si elle tend à se mettre en place. Et c'est ce que reflètent effectivement les textes de doctrine où la différence, par exemple, avec le Moyen-Orient et a fortiori avec l'espace post-soviétique est énorme encore.
Жаркой Африки, в центральной ее части, как-то вдруг вне графика случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав, видно быть по топу. В общем, так один жираф влюбился в антилопу. Тут поднялся галдеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней! Сядь у антилоп ему! Зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что по лбу, все едино. И жирафа взять брючит, видали остолопа. И ушли к бизонам жить жирафом антилопа. Тут поднялся колтеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Что же, что рога у ней? Кричал жираф любовно. Нынче в нашей фауне равны все поголовно. Если вся моя родня будет ей не рада, не пеняйте на меня, я уйду из стада.
Alors, on a un peu compris le depuis quand et le pourquoi. C'est maintenant donc probablement le temps de passer au comment, c'est-à-dire aux formes de cette présence russe, dont on a compris que même depuis l'époque soviétique, il y a un versant très militaire et un versant plus informationnel, disons. Mais quand même, avant tout, je pense qu'il faut peut-être dire quelque chose de quelqu'un qui est vraiment au croisement de ces deux domaines, et qui est un personnage central, c'est peut-être bien de le représenter un peu, qui est Evgeny Prigogine, qui est à la fois à la tête de Wagner, alors on reviendra sur ce qu'est exactement Wagner, mais bon, disons une société de personnel militaire, paramilitaire russe, et en même temps qui est à la tête de beaucoup des entreprises qui font de l'influence informationnelle en Afrique. Donc simplement pour pas le laisser dans un coin, dans l'ombre, ce qu'il souhaiterait probablement dans une certaine mesure, mais est-ce qu'on peut resituer rapidement à la fois qui est Evgeny Prigogine, même si on en parle souvent, et expliquer comment il est devenu en quelque sorte cette espèce de tête de pont de la présence informelle russe dans plein de régions du monde.
Bah, peut-être que, du coup, comme c'est effectivement un personnage qui incarne complètement la jonction de nos travaux, je vais parler peut-être de l'aspect informationnel, et puis je laisse tout de suite après Emmanuel embrayer sur l'autre facette du personnage. Ce qui est intéressant de ce point de vue, c'est bon, d'abord rappeler que effectivement c'est une sorte d'oligarque, en fait, on pourrait dire, d'un petit peu de ce second rang, ou en tout cas d'homme d'affaires qui a fait fortune dans l'industrie des cantines en Russie. C'est pour ça qu'il est souvent surnommé d'ailleurs le chef le chef de Poutine, avec une continuité, avec toutes ces figures qui avaient travaillé dans les cuisines des secrétaires généraux de l'URSS.
Et tout simplement, on peut dire que donc c'est pas les Khodorkovsky, enfin c'est pas ceux qui ont fait une manne sur le pétrole, sur les industries d'armement, non, voilà. etc. C'est un autre business. Il s'est beaucoup enrichi.
Il a fait fortune dans les hot dogs. C'est quand même moins rentable que le pétrole.
Et donc après, en fait, c'est quand même une figure qui incarne. Et là, je citerai Marlène Laruelle et Kevin Limonier qui ont sorti un article récent sur cette notion qu'on appelle les entrepreneurs d'influence en Russie. Et c'est vraiment une figure qui incarne cette dimension, en tout cas sur la partie influence, parce que ce sont des figures qui sont donc des acteurs privés, des hommes d'affaires, qui sont évidemment proches, voire loyalistes vis-à-vis du Kremlin, et qui vont mener précisément des opérations opportunistes, qui vont investir leur propre capital financier et social dans ce type d'opération, afin, par une sorte de retour sur investissement, de gagner des gages, en fait, des ressources politiques et des ressources administratives, comme on dit en Russie, pour finalement monter dans la hiérarchie des élites. Et Prigojine, même s'il y en a d'autres qui sont moins connus, est sans doute la figure la plus emblématique. Ce qu'il a fait, je reste dans le domaine informationnel, à travers la fameuse Internet Research Agency, qui était cette fermatrol installée à Saint-Pétersbourg, et vous avez de multiples...
Donc une fermatrol, je l'ai dit rapidement, enfin je l'ai mentionné rapidement voilà, tout à l'heure, mais disons c'est simplement un endroit où il y a plein de gens qui sont sur Internet et qui sont là pour propager, diffuser un message.
Et faire les trolls justement sur les réseaux en particulier, mais vous avez de multiples ramifications en fait de ces opérations qui peuvent aller, on en parlera peut-être, par exemple le financement d'une radio en Centrafrique, ou finalement des micro-fermatrolles qui peuvent être déployés ici et là pour aller dénigrer ponctuellement en fait un acteur ou pour dans tel ou tel pays valoriser la présence de la Russie ou la présence des acteurs paramilitaires ou mercenaires. Et là, je laisse Emmanuel préciser. Oui, c'est ça, l'autre
Emmanuel,
facette.
Comment est-ce qu'on passe du business des self-service à celui des mercenaires armés?
C'est une très bonne question, Alexandre. Les liens qui existent entre, on va dire, des mercenaires ou des paramilitaires russes et Prigojine, c'est des liens qui remontent en fait à la Syrie, parce que l'existence du groupe Wagner, donc c'est en discussion de savoir si le groupe a commencé à être réactif dans le Donbass ou ensuite en Syrie. Pour moi, c'est plutôt en Syrie à partir de 2015-2016 que c'est un groupe qui a vraiment commencé à jouer un rôle important, avec notamment des participations aux deux batailles de Palmyre. Ou si vous voulez, les hommes de Wagner ont joué le rôle de démultiplicateurs de force sur le terrain, parce que l'intervention russe, elle est essentiellement aérienne, et la présence de mercenaires qui font pas partie des forces armées régulières a pour les deux batailles de Palmyre joué un rôle extrêmement important. Je pense que la raison qui explique ces liens...
Alors simplement, on peut dire qu'une des raisons pour lesquelles c'est pas si facile à identifier, c'est que j'ai appris en vous lisant qu'on dit souvent que Wagner, c'est une société militaire privée, parce que comme il en existe, par exemple aux États-Unis et Blackwater, etc., il en existe partout dans le monde. J'ai appris en vous lisant qu'en fait, c'était pas une société militaire privée, parce que ça n'existe pas. Wagner, techniquement, ça n'a pas d'existence légale. C'est juste un... On identifie ça comme des troupes de Wagner. Enfin, il n'y a pas de fiche de paye, il n'y a pas de liste d'enrôlement de Wagner. C'est juste une appréciation qu'on donne. Mais du coup, c'est difficile de dire si c'est des gens de Wagner ou pas de Wagner, parce que c'est quasiment devenu un concept, disons, pour les paramilitaires russes.
Un concept ou une licence, j'en sais rien. Mais c'est extrêmement intéressant, parce qu'il y a des sociétés militaires privées régulières qui existent en Russie. Hein. Elles se sont développées depuis la fin des années 2000, essentiellement. Et d'ailleurs, elles sont présentes en Afrique depuis la fin des années 2000, mais de manière totalement transparente et totalement régulière. Je pense notamment aux opérations anti-piraterie en mer Rouge, qui ont donné lieu d'ailleurs à une coopération internationale assez importante impliquant la Russie et plusieurs pays occidentaux. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Là où le groupe Wagner, c'est enregistré nulle part en Russie comme société commerciale, et ça tient plus de cette pratique russe d'avoir recours à des combattants non étatiques dans certaines zones de conflit, parce que le coût politique, le coût économique d'utiliser des soldats réguliers serait trop important. Donc c'est en Syrie que Wagner fait ses armes. Il y a les batailles de Palmyre, il y a ensuite la bataille d'incident de Kouchham en février 2018, où là, c'est intéressant parce que les hommes de Wagner qui étaient là, ils étaient plus présents pour soutenir une offensive des forces syriennes que pour jouer le rôle de démultiplicateur de force pour les forces armées russes. Et il y a eu un bombardement américain sur ces mercenaires qui a fait apparemment plusieurs dizaines de morts. Et ce qui est intéressant, c'est que la réaction russe à l'époque a été extrêmement mesurée, probablement dans le souci d'éviter une volonté d'escalade, mais aussi parce que les personnes qui sont mortes n'étaient pas des membres réguliers des forces armées russes. Donc ce groupe...
On imagine bien que si un bombardement américain avait tué des soldats russes, ce serait probablement pas passé exactement comme ça. Et c'est l'avantage et l'inconvénient d'employer des paramilitaires comme ça, quoi.
Voilà, exactement. Et là, pour revenir sur Prigogine, ce qui est aussi intéressant, c'est que ce qui explique cette présence des mercenaires de Wagner aux côtés des troupes syriennes, c'est en fait pour reprendre possession de champs pétrolifères, parce qu'il y a des contrats qui ont été d'ailleurs trouvés en source ouverte par des groupes de journalistes, des contrats qui ont été conclus entre l'une des sociétés de Prigogine et le ministère syrien des ressources pétrolières, je pense, pour garantir en fait la sécurisation des sites pétroliers, en échange de quoi, il me semble, les sociétés de Prigogine recevaient environ 25% des dividendes. C'est un modèle qui a aussi été appliqué dans l'est de la Libye, hein, donc sous le contrôle du maréchal Haftar, où l'implication de Wagner, elle est d'après moi liée à deux utilisations assez différentes. D'une part, un rôle assez classique de sociétés militaires privées qui est de sécuriser des sites pétroliers, et d'autre part, l'implication dans des combats, parce qu'effectivement, à plusieurs reprises, les hommes de Wagner ont aidé les tentatives du maréchal Haftar de prendre possession de Tripoli, des tentatives qui ont été infructueuses, comme on le sait. Et donc, en Libye, je serai très bref, la Libye, ça constitue un peu le premier pays africain dans lequel la Russie, elle déploie cette paradiplomatie. Donc, c'est une diplomatie qui est mise en œuvre par ces entrepreneurs d'influence dont parlait Maxime. Et ensuite, ça se poursuit au Soudan, où ce même modèle où Prigogine prend possession de certaines ressources minières et en échange assure leur sécurité, va se déployer à partir de 2017.
Alors du coup, c'est comme ça que... Parce que là, à la rigueur, on parle de pays qui étaient en guerre ouverte, Syrie, Libye, même Soudan, même si Soudan, c'est un conflit qui est à la fois chaud et froid, ça alterne beaucoup. Et voilà, dans quelle mesure est-ce que ça trace en quelque sorte le point d'entrée pour les mercenaires de Wagner, ou plus généralement ces espèces de, je sais pas comment, des militaires, des anciens militaires, des paramilitaires, des mercenaires, enfin je sais pas, vous nous direz comment les qualifier, mais dans quelle mesure est-ce que c'est un modèle qui est applicable même hors de pays où c'est vraiment des champs de bataille, pour des choses disons un peu plus subtiles en Afrique subsaharienne où il y a évidemment des conflits, mais c'est évidemment pas la même ampleur, quoi. Maxime Audinet?
Oui, non, mais juste, je pense que du coup, il faut aborder le cas de la République centrafricaine, en fait, qui est devenu le laboratoire actuel de justement cette présence à la fois en fait officielle, mais surtout non étatique ou para-étatique, effectivement, de russe. Et de ce point de vue, juste pour rappeler en fait les acteurs russes qui sont essentiellement d'ailleurs à l'époque des formateurs ou des instructeurs, et d'ailleurs c'est intéressant, il y a une confusion des genres qui est entretenue entre justement la figure officielle de l'instructeur russe qui va venir aider à former en l'occurrence les forces armées centrafricaines, et puis le mercenaire de la branche de Wagner.
Mais alors,
qui est présent.
Je vais me permettre de refaire un tout petit retour en arrière, parce que tout le monde n'a peut-être pas la situation politique et géopolitique de la Centrafrique en tête, mais il y avait quand même une guerre civile assez violente, où la France s'est engagée directement à partir de 2012 au travers de l'opération Sangaris pour pacifier tout ça. Après, la France a essayé de se désengager, enfin, peut-être vu du point de vue centrafricain, il peut y avoir d'autres opinions, mais en tout cas Sangaris a pris fin, il y a des missions de coopération, etc. La situation est toujours extrêmement fluide et voire éruptive en République centrafricaine, et donc à partir de quoi, 2017,
fin
2018.
2017, début 2018.
Ouais. On voit arriver des Russes.
Un peu plus d'un an après la fin de Sangaris, en fait.
Voilà. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où la place est libre et où on tente de faire des missions de coopération, de formation, de transition sous l'égide de l'ONU, et on sait que c'est toujours très compliqué de faire marcher ces choses-là, on voit débarquer des Russes en Centrafrique. Alors, comment et pourquoi la Centrafrique, à votre avis ?
Alors, je pense qu'il y a, là encore, on revient à cette logique très opportuniste, la possibilité d'avoir, après effectivement le départ de l'armée française, une occasion de combler un certain nombre de vides à la faveur de, il me semble, de la levée de l'embargo sur les armes. Mais
oui, en fait, ouais. Techniquement, ce qui s'est passé, hein, ce qui explique un peu l'entrée de Moscou à Bangui, c'était fin 2017, comme le disait Maxime, il y avait une demande du président centrafricain, donc Touadéra, de livraison d'armes à laquelle la France avait agréé. Mais les armes, si je me rappelle bien, que voulait livrer Paris, c'était des armes qui avaient été saisies en Somalie. Et là, au Conseil de sécurité des Nations Unies, le représentant russe a dit que des armes saisies pouvaient pas être livrées, enfin des armes saisies par l'ONU pouvaient pas être livrées à un autre pays. Et c'est pour ça que les Russes sont venus avec une offre extrêmement avantageuse. C'était une livraison de un lot de AK-47, il me semble, à titre gracieux évidemment pour les forces armées centrafricaines. Donc ça, c'était fin 2017, début 2018, et c'est comme ça que tout a commencé. Ensuite, il y a une rencontre à Saint-Pétersbourg quelques mois plus tard entre donc Touadéra et Vladimir Poutine. Il y a eu ce fameux Valéry Zakharov, donc qui est un ancien du SVR ou du SVR, c'est ça, enfin du GRU, voilà. Enfin,
un ancien des services de renseignement.
Du renseignement militaire russe, voilà, qui a été nommé conseiller à la sécurité du président centrafricain. Ensuite, il y a les fameux instructeurs militaires russes qui sont arrivés en Centrafrique avec une ambiguïté. On ne savait pas trop si c'était des membres de Wagner ou si c'était des soldats des forces armées russes régulières. Aujourd'hui, en tout cas, donc 3 ans après cette arrivée de Moscou dans le pays, il y a à la fois des instructeurs militaires russes officiels qui sont présents. Et il me semble que c'était au mois de mai dernier, il y a eu une notification à l'ONU pour l'envoi de 600 instructeurs militaires russes supplémentaires. Donc il y a à la fois l'armée russe et, on va dire, les mercenaires de Wagner qui sont environ au nombre de 1500-2000 et qui sont là à la fois, je pense, pour assurer des missions de formation des FACA, donc des forces armées centrafricaines, et aussi faire ce qu'ils font en Syrie, faire ce qu'ils font en Libye, faire ce qu'ils faisaient au Soudan, sécuriser des sites d'extraction minière pour en recevoir des dividendes en échange.
Et c'est là qu'il faut sans doute aussi préciser, parce qu'en fait il y a une articulation, en tout cas de la part des affiliés de Prigogine dans le pays, c'est que vous avez aussi cette compagnie qui s'appelle Lobai Invest en particulier, qui a reçu un permis d'extraction minière de la part du gouvernement centrafricain et qui est spécialisée justement, comme le disait Emmanuel, dans la prospection et puis l'extraction d'or et de diamants. Donc vous avez en fait ce schéma qu'on retrouve à la fois d'extraction des ressources et de prestations de sécurité qui en fait s'auto-nourrissent puisque les mercenaires vont aller protéger des sites et inversement un dividende peut être tiré de ces compagnies pour financer précisément ces acteurs de la sécurité.
Et alors pour voir, je veux préciser au passage que pour avoir une représentation de ça, puisque c'est quelque chose qui est très invisible, mais pour avoir une représentation de ça, je vais signaler qu'il y a un film dont il se peut qu'il y ait bientôt un bunker dessus, qui s'appelle Touriste, qui est un film qui est sorti plus tôt cette année, qui représente ça de manière très intéressante, disons, cette mission des militaires paramilitaires russes en Centrafrique, leur statut, ce qu'ils peuvent être amenés à faire. C'est évidemment un film russe fait pour glorifier la présence russe en Centrafrique, et c'est très intéressant parce que c'est du coup aussi une opération, disons, d'influence, en tout cas de lutte informationnelle russe. Il y aura un épisode plus spécialement consacré à ce film dans les semaines qui viennent. Mais du coup, ça me permet de faire la transition, en quelque sorte, depuis les mercenaires, les paramilitaires, vers une dimension plus informationnelle, plus immatérielle de cette influence russe, Maxime Audinet. En Centrafrique, évidemment, mais plus généralement en Afrique subsaharienne, je vais préciser d'ailleurs que vous y avez consacré récemment une étude de l'IRSEM que j'aurais déjà dû citer, mais qui est parue au début de l'été, intitulée « Le lion, l'ours et la hyène, acteurs, pratiques et récits de l'influence informationnelle russe en Afrique subsaharienne francophone ». Mais donc, cette présence, cette influence, cette manière que la Russie a d'être présente dans le débat, enfin dans le discours et dans le débat médiatique, en tout cas dans ces pays-là, bon, on doit se douter au moins que ça doit passer par la chaîne Russia Today, par l'agence de presse enfin, d'information Sputnik aussi, ne serait-ce que parce que ce sont les structures qu'on accuse généralement de faire la lutte informationnelle russe, notamment en France, vous étiez déjà venu nous en parler. Mais simplement, est-ce que vous pourriez commencer peut-être par nous rappeler déjà ce que sont ces entités, quand elles sont apparues, et ce qu'elles font globalement, et puis ensuite du coup on va voir comment elles interviennent là.
Tout à fait. Juste pour sur le titre de l'étude, c'est une cette métaphore un peu animalière, c'est une référence à un petit dessin animé en fait qui a été non seulement publié sur YouTube, mais surtout projeté dans des festivals de cinéma pour enfants à Bangui et qui en fait est une production de Lobai Invest, justement la compagnie associée à Prigojine dont je parlais tout à l'heure. Sur les médias, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que en tout cas de la part des médias francophones depuis la création de cet écosystème médiatique russe francophone, donc au moment de la crise ukrainienne, donc fin 2014, début 2015, il y a eu très rapidement de la part des...
Donc francophones, donc pour préciser, RT existait déjà, Sputnik, ouais. RT et Sputnik existaient déjà, mais simplement ils ont lancé des chaînes et de la diffusion en français.
La chaîne RT date de 2017, mais là c'est vraiment les sites RT en français et Sputnik France ont été créés en fin 2014, début 2015. Avant il y avait la Voix de la Russie, mais bon, c'est encore autre chose. Et très vite en fait, ils manifestent l'envie en fait de se... En tout cas, dans leur discours, de se projeter davantage dans d'autres espaces francophones, évidemment d'abord en Europe, au Québec, et puis surtout en Afrique francophone. Simplement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette présence elle est extrêmement limitée. Par exemple, elle est incomparable avec la présence de la chaîne russe arabophone, RT Arabic, par exemple au Maghreb, qui est beaucoup mieux implantée en fait que ces médias francophones. On estime à peu près les audiences africaines des sites RT et Sputnik représentent respectivement 1% et un peu moins de 3% des audiences totales des deux chaînes. Donc ils sont très majoritairement viennent de France et de Belgique notamment.
Mais donc, alors c'est intéressant, ouais. Parce que il y a la question de l'audience et puis en même temps il y a la question, enfin ça se mesure pas qu'en audience, ça se mesure aussi en la manière dont le discours permet, enfin infiltre un discours, un débat global. Et ça, je veux dire qu'une partie tout à fait fascinante de cette étude, c'est que vous avez une très forte dimension d'analyse des discours. Et ce que vous montrez, qui est pas totalement intuitif, c'est que c'est pas de la propagande au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire il s'agit pas de glorifier la grande Russie et les gentils mercenaires de Wagner sur les ondes de RT. C'est quelque chose, beaucoup plus quelque chose de critique et de dévalorisation des autres puissances, et notamment de la France. Et du coup, ce que vous montrez, c'est que la stratégie est plutôt une stratégie de valorisation de la Russie, mais en contrepoint de ses présences traditionnelles, notamment anciennement coloniales, qu'on critique et qu'on dévalorise.
Tout à fait. En fait, ce que j'ai essayé de démontrer dans l'étude, c'est la manière dont précisément cet écosystème, au sens vraiment... propre du thème, enfin de cette influence informationnelle, il y a vraiment plusieurs acteurs qui ont plusieurs logiques et il ne faudrait pas surinterpréter l'idée d'une coordination et d'une continuité entre tous ces acteurs. C'est-à-dire, vous avez des acteurs qui peuvent être des sites sous faux drapeau ou effectivement des acteurs de la désinformation en ligne qui vont propager des discours beaucoup plus ostensiblement pro-russes ou anti-français. Et puis vous avez des acteurs ouverts, officiels, comme RT et Sputnik, qui ont effectivement une part plus marginale de contenu qui peuvent être considérés comme par exemple critiques de la France ou laudateurs vis-à-vis de ce qui fait la Russie. Mais tout ça, en fait, intervient dans une production de contenu qui est beaucoup plus large et qui va en fait aller sur des terrains peut-être auxquels on ne pense pas immédiatement. Par exemple, essayer d'amadouer tout un discours panafricaniste qui peut d'une certaine manière s'articuler avec la défense du souverainisme qui est une des clés de lecture importante de ces médias russes. Et donc ils tentent d'aller aussi sur d'autres terrains et surtout à se crédibiliser auprès des audiences africaines. Et ça, c'est un élément en fait important à prendre en compte, c'est que notamment Sputnik, pour mieux s'implanter dans la région, et je pense en particulier au Mali ou au Cameroun, qui sont des pays importants avec des audiences qui ne sont pas négligeables, Sputnik a développé un réseau de correspondants locaux, donc travaille vraiment avec des journalistes africains, va aller interroger des experts de la zone qui sont reconnus, crédibles, et avec en fait quelque chose qu'on verrait beaucoup moins en fait aujourd'hui en Europe où ces médias ont été largement discrédités. Donc la perception de ces médias est pas la même, et ils cherchent aussi évidemment à se crédibiliser auprès de ces audiences. C'est ce qu'ils ont fait enfin, et c'est un élément aussi important qui rejoint notre discussion sur l'amitié des peuples et sur l'université Patrice Lumumba. C'est que en fait ils ont créé aussi ils ont signé des accords de coopération avec des agences de presse ou des médias africains, y compris parfois des grosses agences. Je pense à l'agence ivoirienne de presse, par exemple, qui est la principale agence en Côte d'Ivoire, et qui permet en fait d'échanger des contenus, de faire venir des journalistes à Moscou ou d'envoyer des journalistes sur place pour les former. Donc il y a aussi une dimension très diplomatie des échanges qui est mise en place pour renforcer ces coopérations.
Alors pour continuer là-dessus, et disons, pas me faire l'avocat du diable, mais un peu. On voit que c'est un discours qui est élaboré, qui est analytique, qui est parfois nuancé, même s'il y a un message. Par acquis de conscience, je vais quand même vous poser la question à 1000 euros, qu'on vous pose d'ailleurs souvent, j'imagine, mais c'est un média global, qui est rattaché à un gouvernement, qui développe un point de vue qui est situé, mais qui se veut objectif dans la mesure du possible quand même. Oui, mais bon, qui se dit lui-même objectif. Voilà, la question, c'est quelle différence avec France 24, par exemple, ou RFI, qui sont très très présentes en Afrique. Simplement, je vais dire qu'évidemment, il y a une énorme différence. Il suffit de regarder ces chaînes plus de 5 minutes, et on voit qu'il n'y a pas du tout le même travail de journalisme et de reportage des faits. C'est évident, et c'est une qualité très très différente. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que je viens de le faire. Sur le papier, on peut présenter les choses de manière à ce que ça se ressemble. Et c'est un argument qu'on trouve d'ailleurs très souvent. Donc comment est-ce que vous caractériseriez, Maxime Audinet, la différence substantielle entre voilà, ce que fait la Russie et bah, des relais d'information de l'influence française aussi dans une certaine mesure?
Je pense que en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement la couverture des actualités africaines au sens très large, après évidemment il faudrait décliner, mais c'est un très bon exemple pour en fait révéler la différence entre justement France 24 et RFI d'une part, RT et Sputnik d'autre part. C'est-à-dire que ce sont à leur manière des médias d'influence, mais ce qu'on peut observer, c'est que par exemple ça arrive fréquemment de voir des contenus critiques sur France 24 et RFI par exemple de ce que de certains événements pendant l'opération Barkhane ou d'une présence française lorsqu'elle est critiquable. En revanche, et j'analyse le cas en fait de la couverture par RT et Sputnik des actualités centrafricaines, et ce qu'on peut observer, et je crois que l'analyse lexicométrique que j'ai essayé de déployer le monde, c'est qu'en fait
lexicométrique, on va dire simplement, c'est une analyse notamment quantitative, c'est-à-dire à partir où on fait travailler des ordinateurs sur le discours, sur les mots qui reviennent ou qui ne reviennent pas.
Et là, on observe vraiment qu'une vraie couverture qui est alors sélective évidemment, mais qui est vraiment même extrêmement parcellaire et qui ne va mettre en avant que les aspects, disons, positifs et les moins controversés de cette présence russe. Et là, en l'occurrence, on en a parlé tout à l'heure, des termes comme formation, instructeur, sécurité, lever l'embargo, assistance au gouvernement. Donc c'est des expressions qui ressortent, là où des expressions comme extraction minière, Wagner, n'apparaissent pas en fait du tout dans ces corpus. Et plus encore, et là il y a eu un moment assez intéressant, c'est RFI a publié en mai dernier une enquête poussée sur les exactions du groupe Wagner en Centrafrique et qui a déclenché de la part de ces différents acteurs informationnels russes, avec des degrés assez différents, une campagne extrêmement critique pour en fait dénoncer la propagande néocoloniale de la France via RFI qui critique Wagner. Et vous avez aucun contenu en fait sur ces médias sur ce que fait Wagner, alors que c'est de fait un acteur important de la présence russe sur le continent.
Alors là, on a le discours vraiment par presque les vieux médias, même si c'est pas des vieux médias, ça passe évidemment aussi par des sites internet, etc. Mais il y a aussi toute une autre dimension, qui est la dimension plus en ligne, qui a les dimensions sur les réseaux sociaux. Et de ce point de vue-là, la Centrafrique... Alors, on va dire, on parle beaucoup de la Centrafrique parce que c'est un laboratoire et qu'on suppose que ce que la Russie fait en Centrafrique, elle pourrait le faire ailleurs à terme. Mais de ce point de vue-là, il y a un truc qui s'est passé de manière très intéressante entre 2018 et 2020 en Centrafrique, c'est Facebook qui a révélé, fin 2020 je crois, qu'il y avait eu des opérations très coordonnées d'information ou de désinformation sur Facebook, deux opérations russes. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Facebook a dit qu'il y avait eu aussi une opération française en sens inverse, c'est-à-dire de, ben voilà, une puissance étrangère qui essaye d'influencer le discours sur les réseaux sociaux dans un pays, en l'occurrence la Centrafrique, et c'est Facebook qui révèle donc que c'est des opérations coordonnées. Bon, on sait qu'ils sont mis à se pencher un peu sur la question, notamment après les élections américaines de 2016, où ça avait été apparemment un facteur, mais donc ils ont commencé à révéler ces choses-là, et ils ont parlé de la Centrafrique en disant, ben voilà, les Russes le font, mais les Français l'ont fait aussi. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, en quelque sorte, de cette nouvelle forme de lutte informationnelle qui existe là et qui existe plus généralement, mais aussi le fait que, apparemment, même les vieilles puissances s'y mettent aussi pour répondre, en quelque sorte, pied à pied, à ce que fait, par exemple, la Russie, là.
Oui, alors en fait, vous avez eu tout simplement une transposition de différents types de luttes informationnelles qu'on a observées à une beaucoup plus grande échelle, en fait, depuis le début, le milieu des années 2010, sur là, quelque chose de beaucoup plus restreint, qui était vraiment le théâtre centrafricain, et puis aussi un petit peu sahélien, parce que ça ciblait aussi plusieurs pays du Sahel, avec de part et d'autre, effectivement, donc des individus liés à l'armée française, comme l'a dit Facebook, et des individus plutôt liés en fait au réseau Prigogine côté russe, qui se sont en fait écharpés effectivement pour discréditer l'action de l'autre. Ce qui me paraît aussi intéressant là encore, c'est de souligner en fait ce type de phénomène comme illustrant en fait une tendance qui est de plus en plus présente dans l'influence russe, qui est une forme d'externalisation, voire de sous-traitance en fait de ces pratiques. Et il y a un autre exemple qui est assez intéressant pour décentrer le regard, qui est c'est Facebook, CNN et l'agence Graphica qui avaient mis en évidence cette Fermatrol dans la banlieue d'Accra au Ghana, qui justement était là aussi financée par Prigogine au sein d'une ONG dont certains acteurs d'ailleurs ne savaient pas qu'ils travaillaient au profit de la Russie ou des acteurs russes privés, et qui ciblaient les audiences afro-américaines juste avant les dernières élections présidentielles américaines. Donc voilà, c'est en fait, après il faut pas exagérer la portée, parce que souvent c'est des toutes petites équipes, c'est pas l'Internet Research Agency où il y avait plusieurs centaines de personnes. Là, on parle d'équipes qui peuvent représenter entre 5 et 10 personnes qui vont aller en fait faire les trolls sur Facebook, avec en fait le plus souvent quand même un impact extrêmement limité, parce que assez rapidement Facebook a identifié ces comptes et les a supprimés. Крыша ржавая, сарай из трех досок. Яблоня под яблоками гнется. И две пары из пяти носок сохнут на веревке у сарая. Рукомойник из бутылки спрайта. Кот лежит на солнце, загорает. До весны не простоит сарай-то.
Mais alors, est-ce qu'on peut dire simplement un mot ? Donc là, on a compris, c'est la Centrafrique, c'est un terrain d'expérimentation. Est-ce que tous ces efforts-là, aussi bien informationnels que même d'un point de vue peut-être plus hard power, plus aussi bien des investissements, de la présence de personnel ou de matériel militaire, ça se déploie aussi au-delà de la Centrafrique, par exemple en Afrique subsaharienne, en francophone, mais aussi peut-être en Afrique du Sud-Est? On sait qu'il y a eu une présence au Madagascar, au Mozambique, qu'il y a eu des opérations. Qu'est-ce qu'on peut dire, disons, des tentatives d'extension au-delà de ce laboratoire centrafricain, qui semble être un point d'appui relativement utile pour la Russie? Dans quelle mesure ça se déploie aussi au-delà? Emmanuel Dreyfus?
Il y a deux tendances qui sont un peu divergentes, si je puis dire. Dans la mesure où, effectivement, la RCA, c'est de loin pas le seul pays d'Afrique subsaharienne dans lequel Moscou a renforcé sa présence ces dernières années. Depuis 2015-2016 environ, il y a quand même une vingtaine d'accords, dont des accords de coopération militaire, des accords de défense, qui ont été passés entre la Russie et des pays d'Afrique subsaharienne. Le dernier en date, c'est la Mauritanie, par exemple, donc un des pays du Sahel. Et plus généralement, ce que j'appellerais la diplomatie de défense russe, donc qui est quand même l'un des principaux avantages comparatifs de la politique étrangère russe, elle se déploie évidemment pas que vers la RCA, mais envers toute l'Afrique subsaharienne. Et par exemple, ça se voit sur les ventes d'armement, où désormais la Russie est le premier exportateur d'armement des pays d'Afrique subsaharienne, et c'est une part qui a énormément augmenté. Il me semble qu'en 2010-2011, environ 11% des exportations d'armement vers l'Afrique subsaharienne provenaient de Russie, et maintenant on est à 40%. À tel point que Rosoboron Export en 2019, enfin, avait, donc Rosoboron Export, c'est l'autorité russe exportatrice d'armement, avait qualifié 2019 d'année de l'Afrique au vu du nombre de contrats qui avaient été signés. Donc d'une part, il y a cette extension de la présence. D'autre part, sur le fait que la présence se renforce, je pense que c'est aussi important d'insister sur les échecs de la Russie dans ce domaine et le fait que ce qui se passe en Centrafrique, ça va pas forcément pouvoir être dupliqué à l'envi partout. Et si je peux me permettre cette comparaison, de la même manière qu'on a dit après l'annexion de la Crimée que la Russie allait faire la même chose dans les pays baltes parce qu'il y a des minorités russophones, non, le scénario de la Crimée, il a eu lieu en Crimée parce qu'il y avait des particularités extrêmement importantes sur la péninsule qui peuvent pas être répétées ailleurs. Et je pense, peut-être que je me trompe, de la même manière que, en fait, la RCA présente un très grand nombre de particularismes et qui font qu'il y a une opportunité pour la Russie de s'insérer de manière extrêmement importante, il est vrai, dans ce pays, qui pourra pas être dupliqué ailleurs. Et quand on regarde l'entourage immédiat de Centrafrique, par exemple les pays du Sahel, je pense à la Mauritanie, je pense au Tchad, je pense au Mali, il y a eu des tentatives effectivement de renforcement de la présence russe, il y a des accords de coopération de défense qui ont été signés, mais globalement c'est pas du tout ce qu'on voit en Centrafrique, et Maxime pourra compléter. Au Tchad, les informations essentiellement qu'on a, c'est l'arrestation de d'une dizaine de, entre guillemets, touristes à l'été dernier. Au Mali, il y a eu effectivement des manifestants pro-russes qui ont été vus à Bamako l'été dernier, et en fait il s'avère que c'était toujours le même groupe de personnes avec un drapeau russe qui se promenait. Donc je pense que c'est important de relativiser cette présence. Si je peux continuer sur les échecs très rapidement, Madagascar, c'est pareil, hein, c'était des hommes liés à Prigogine qui ont soutenu à l'élection présidentielle de 2018, il me semble, plusieurs candidats, et quasiment aucun de ces candidats n'est passé au second tour. De la même manière, la Russie avait mis tous ses œufs dans le même panier au Soudan en développant une relation extrêmement forte avec Omar el-Béchir. Omar el-Béchir a été renversé, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre d'accords qui avaient été signés entre Moscou et Khartoum, par exemple portant sur l'établissement d'une base militaire russe à Port-Soudan, pour le moment ont été suspendus par les nouvelles autorités soudanaises. Donc voilà, je pense que c'est important d'insister sur ce point.
Maxime Audinet, on a beaucoup dit que, alors, les opérations de la France, enfin, la présence française en Centrafrique a été très critiquée. On a dit qu'il y a eu des critiques peut-être notamment contre Barkhane, qui aurait été faites dans le domaine, disons, informationnel, qu'il y aurait eu des opérations notamment sur les réseaux qui viendraient peut-être de Russie pour suggérer, enfin, pour alimenter des critiques de Barkhane qui tombent pas de toute façon sur une oreille sourde. Enfin, je veux dire, on n'a pas attendu les Russes pour critiquer, enfin, les Africains n'ont pas attendu les Russes pour critiquer la présence française sur le continent et notamment Barkhane. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en quelque sorte de cette diversification, même en direction des pays du Sahel, de l'influence informationnelle russe?
Je pense qu'effectivement, comme disait Emmanuel, de toute façon, l'ampleur territoriale de la zone et les moyens des pays sont tellement plus considérables qu'en Centrafrique que l'idée d'imaginer un remplacement complet de Barkhane par des forces russes est vraiment une chimère. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est qu'il peut y avoir effectivement de manière très ponctuelle et là encore opportuniste, une tentative de combler certains vides, et c'est vrai que l'informationnel est à moindre frais, une, une possibilité de le faire. Emmanuel mentionnait ce groupe des patriotes maliens où effectivement on peut observer de manière assez ponctuelle des échanges sur les réseaux. Ça peut même passer aussi par des sites panafricanistes locaux, parfois même qui ont une tendance un peu plus conspirationniste, qui vont partager des contenus russes, et je pense aussi à des contenus même de RT et Spoutnik. Et d'ailleurs Spoutnik, je le disais tout à l'heure, a une présence qui n'est pas négligeable au Mali, où on compte à peu près entre 100 et 150 000 visites du site par mois depuis le Mali, ce qui est pas mal. Effectivement, voilà, l'ampleur n'est pas la même. Il faut s'attendre, parce que là encore, c'est des opérations qui sont extrêmement peu chères à éventuellement des campagnes de désinformation pour critiquer Barkhane. Mais ce qui se passe, effectivement, et le Mali est un bon exemple, c'est que le sentiment anti-français a énormément augmenté en 2019-2020. Je crois que dans le dernier Malimètre, 80% des Maliens étaient sceptiques vis-à-vis de Barkhane. Donc effectivement, les Russes, mais pas seulement, on parle aussi pas mal de la Turquie, n'ont qu'à venir pour essayer d'amplifier un petit peu ce sentiment, finalement, à moindre frais. Je voudrais juste dire un truc qui me semble...
J'ai précisé que j'aime beaucoup le Malimètre.
Qui est d'ailleurs une très bonne source pour ceux qui s'intéressent. Je l'ai découvert récemment et c'est très bien.
C'est un truc qu'on pourrait trouver dans un magasin de bricolage, le Malimètre. Mais alors, juste pour terminer, peut-être qu'on n'aurait pas dû terminer par ça, peut-être qu'on aurait dû en parler avant, mais parce que là, en quelque sorte, on traite l'Afrique comme une proie, un terrain de jeu, un terrain d'affrontement, etc. Et il faut sans doute retourner le regard un peu, et il aurait peut-être fallu le faire avant, parce que ce sont des acteurs qui ont chacun des intérêts, c'est pas seulement des objets qui sont mus par les grandes puissances. Alors de ce point de vue-là, ça pose la question de ce que les pays ciblés, notamment en Centrafrique, ils trouvent comme intérêt et pourquoi ils sont réceptifs ou non à cette influence russe. À la rigueur, et encore une fois, pour pas presque me faire l'avocat du diable, mais pour presque dire que c'est assez logique, voire sain pour eux, cet intérêt, ces investissements, cette influence russe dans une certaine mesure. Je veux dire, c'est une expression qui est vague et qui est discutable, mais on sait que la France-Afrique, c'est-à-dire les réseaux entre la France et les anciennes colonies africaines, c'est un problème à la fois politique et de dépendance économique et institutionnelle pour ces pays d'Afrique-là. Et on sait qu'il y a un gros mouvement de diversification, notamment avec la Chine, qui investit énormément en Afrique, mais ça vient avec toujours les problèmes qui sont là quand la Chine investit, c'est-à-dire ils prennent, ils s'accaparent, etc. Et on sait qu'il y a beaucoup de mouvements de retour et des mouvements anti-chinois en Afrique aussi. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut voir en quelque sorte l'intérêt de diversifier ses intérêts étrangers par rapport à l'ancien colonisateur, évidemment, mais aussi par rapport au néo-colonisateur, mais en tout cas à celui qui s'investit vertigineusement depuis quelques années, à savoir la Chine, du point de vue, encore une fois, de ces pays africains où cette bataille, disons, se joue à l'heure actuelle. C'est pas Emmanuel Dreyfus ?
Je pense que déjà, on peut avoir en tête le fait que la Russie, notamment pour ce qui concerne la diplomatie de défense, c'est un État qui n'a pas de problème à développer cette diplomatie sans conditionnalité politique avec les pays ciblés, ce qui n'est pas le cas évidemment des États-Unis ou des pays de l'Union européenne, pour lesquels les questions essentielles de respect des droits de l'homme sont prises en compte, par exemple quand il y a des contrats de vente d'armement qui sont signés. On n'a pas ça avec la Russie, et ça explique par exemple le rapprochement assez important qu'il y a eu entre Moscou et Khartoum sous Omar el-Bashir, et inversement, le fait que maintenant que le Soudan se normalise, entre guillemets, si je puis dire, avec une normalisation des relations et avec les États-Unis et avec Israël, du coup, mécaniquement, l'influence de la Russie dans ce pays décroît. Il y a ce premier élément à avoir en tête. Le second élément, de la même manière que on est d'accord avec Maxime, entre autres sur ce point, la politique russe en Afrique, elle est pragmatique avant tout. Je pense que du point de vue africain, faut y voir aussi avant tout des raisons pragmatiques, et c'est profiter des avantages comparatifs que peut proposer la Russie à ces pays-là. Il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a les ventes d'armement, il y a un savoir-faire assez important dans le domaine de l'énergie ou de l'extraction minière. Il y a le fait que c'est un point assez important, depuis 2014, comme vous le savez probablement, il y a un cycle de sanctions et de contre-sanctions économiques qui existent entre la Russie, l'Union européenne et les États-Unis, et qui désormais vise des secteurs beaucoup plus larges que les secteurs initiaux, qui étaient en gros le secteur de l'armement et des biens dus. Et en fait, les pays d'Afrique subsaharienne, ils sont situés totalement en dehors de cycles de sanctions et de contre-sanctions. Donc, ça facilite le développement de relations commerciales qui sont assez importantes, hein, dans la mesure où depuis le début des années 2010, si je me rappelle bien, le volume des échanges commerciaux entre la Russie et les pays d'Afrique subsaharienne a été multiplié par 8. Donc, il faut voir ces choses-là en tête, avec là encore des bémols assez importants, et je laisserai Maxime compléter. Le fait qu'en réalité, le volume des échanges entre la Russie et l'Afrique subsaharienne, il correspond à environ 6% des échanges totaux qui existent entre l'Union européenne et l'Afrique.
Ouais, et c'est plus facile de multiplier par 8 quand on part de très bas.
Voilà, exactement. Et 8% des échanges avec la Chine. Donc là encore, c'est important de relativiser, parce qu'on part de très loin. Et la capacité de Moscou à rattraper ce retard dans le domaine économique, elle me semble en fait pas possible du tout.
Maxime.
Oui, alors j'abonde complètement dans le sens d'Emmanuel pour dire que la question de la non-conditionnalité, c'est vraiment, je pense, la principale clé de lecture en fait de ce rapprochement de la Russie avec plusieurs États africains. Et pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, Alexandre, c'est vrai que ça serait totalement en fait inadapté de considérer en fait que effectivement les acteurs africains sont passifs dans l'histoire et que c'est dans cette histoire et que ça serait uniquement la Russie qui utilise des relais pour propager son influence. Donc effectivement, ce qui est important, on parle souvent des relais. À juste titre, d'ailleurs, d'une certaine manière, de cette influence russe sur le continent, parce que il s'appuie sur tout un réseau d'acteurs locaux qui peuvent contribuer à, par exemple, dans le champ informationnel, à la propagation de ces contenus. Mais ce sont aussi, évidemment, on l'a un petit peu mentionné tout à l'heure, des acteurs qui ont évidemment leurs propres intérêts, qui ont leurs propres agendas, parfois y compris politiques. Et du coup, même si je rejoins Emmanuel pour dire que l'immense majorité de cette coopération est peut-être d'abord pragmatique, on observe, et je crois que c'est un élément intéressant, même s'il est incomparable avec ce qui se passait à l'époque soviétique, on observe un certain nombre de convergences politiques, idéologiques, ce qui est d'ailleurs ce qu'on peut observer aussi en Europe à de nombreux égards. Sauf que là, l'idée, c'est pas de propager, les valeurs conservatrices ou les valeurs traditionnelles. Ici, c'est plutôt effectivement toute cette convergence autour d'une certaine vision de l'ordre international avec des États souverains. Et pour donner, je crois, un exemple emblématique de ce type de convergence, c'est celui d'une militante panafricaniste qui s'appelle Nathalie Yambe, qui est conseillère d'un membre de l'opposition en Côte d'Ivoire et qui en fait est venue à Sochi pendant le forum, a fait un réquisitoire violent contre justement la France-Afrique et la présence française, et elle a été surnommée ensuite la Dame de Sochi. Elle est revenue et elle apparaît aujourd'hui comme vraiment une figure centrale de à la fois de ces mouvements panafricanistes très anti-occidentaux. Je pense notamment aussi à Kémi Séba, qui est la version la plus extrême droite, si on peut dire, de ce discours-là. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce sont des acteurs qui apparaissent régulièrement à la fois sur les médias russes internationaux, donc RT et Sputnik, mais aussi dans des associations, sur des médias qui sont très liés, pour ne pas dire totalement financés, par des Russes. Voilà. Et ça, il me semble que ça incarne, même si c'est à une petite échelle, effectivement un mouvement peut-être aussi dans ce champ politico-idéologique que la Russie exploite au-delà de ces accords pragmatiques.
Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Alors Maxime Audinet, je rappelle donc votre étude de l'IRSEM qui est sortie au début de l'été. Je vais reciter le titre parce qu'il est vraiment trop poétique. Le lion, l'ours et la hyène, acteurs, pratiques et récits de l'influence informationnelle russe en Afrique subsaharienne francophone, qui est évidemment librement disponible en ligne. Emmanuel Dreyfus, je renvoie aussi vers vos publications qui sont listées sur le site de l'IRSEM, notamment un certain nombre qui concernent tant le groupe Wagner que la présence russe en Afrique. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle comme d'habitude que le podcast se nourrit de vos recommandations et conseils, que ce soit par le fait que vous en parliez autour de vous, aux gens qui pourraient être intéressés par les différents formats de l'émission, profite d'ailleurs pour signaler que je pense qu'on va repasser à 2 épisodes par semaine à partir de ce vendredi, normalement, selon le même rythme que l'an dernier. Et que, par ailleurs, vous pouvez noter et commenter le podcast, notamment sur Apple Podcasts ou sur SoundCloud, tout comme nous faire part de vos remarques par mail à collimateur@irsem.fr ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.